Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 12 février 2025. Allez, c'est en direct que nous partons pour 1h30 de partage de livres. 1h30 donc jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Frédéric a la grippe, donc on a une petite pensée amicale pour lui. Et heureusement, Hélène de Femmes Libres nous vient en aide et nous l'en remercions grandement. Mais il y a Agnès, Marie, Francis et aujourd'hui Roger van Gisberg pour un livre « Ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alter publiés au Seuil ». Comme d'habitude, en plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale, c'est toujours la même, librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Et il y a aussi le blog du groupe Communes de Paris. Il suffit de cliquer sur « Contact » sous la banderole dessinée par notre ami Tardy. Alors, commençons sans tarder. Premier livre, pour alimenter le débat, « Le pouvoir ». Ah, le pouvoir avec un grand P. Voilà un thème qui intéresse toujours les contestataires de l'ordre imposé, que sont les anarchistes, et les éditions Les Belles Lettres ont réédité dans la collection Le Goût des Idées le livre de Guglielmo Ferrero, Pouvoir, les génies invisibles de la cité. Bon, soyons clairs, hein, Ferrero n'est pas un anarchiste, il est issu d'un milieu plutôt bourgeois en 1871, il est mort en 1942 en Suisse, et c'est un historien, un essayiste italien, auteur notamment de Grandeur et décadence de Rome, publié en 1907. Donc vous voyez, il est plutôt dans une logique de recherche et de l'antiquité. Et puis, en 1925, il se rapproche de Giovanni Amendola et de Benedetto Croce, deux libéraux antifascistes. Oh là là, que n'a-t-il fait là ? Et le gouvernement fasciste italien le place en résidence surveillée. Comme quoi, on a beau être un bourgeois, tranquille, etc., eh bien, on dérange le pouvoir fasciste dès qu'on se rapproche de libéraux. En 1929, il devient prof à l'Institut universitaire des hautes études internationales à Genève, où il décède donc en 1942. Et sa relation du contrôle exercé par le pouvoir, par exemple sur son courrier, démontre le danger de tout État fasciste. Et en fait, il s'interroge dans son livre « Pouvoir » sur la notion même du pouvoir, c'est-à-dire les principes qui le fondent et le perpétuent. Sa culture initiale lui sert d'appui et l'assassinat de Jules César, vous rendez-vous compte, le fait réfléchir sur ce qui anime le pouvoir. Intéressant comme approche. Il se projette sur l'analyse du fascisme, l'attitude bienveillante de la population, des parlementaires, en majorité aux ordres du roi. Question. Tout puissant qu'il était, pourquoi Mussolini contrôle le pouvoir, la presse, les échanges dans la population ? Ferrero s'intéresse à Bonaparte et à sa volonté de contrôler la presse. Et c'est en repartant dans l'histoire qu'il essaye de mieux comprendre. Et le futur empereur s'exprime ainsi au lendemain du 18 Brumaire, « Si je lâche la bride à la presse, je ne resterai pas 3 mois au pouvoir. » En effet, il a peur. Et pour Ferrero, en effet, c'est la peur qui anime les tenants du pouvoir. Analyser le phénomène est complexe. Ferrero trouve une réponse dans les mémoires de Talleyrand. Ouais, il faut vraiment chercher, hein, les mémoires de Talleyrand, c'est-à-dire les principes de légitimité. Il en relève plusieurs, le principe électif, le principe démocratique qu'il retrouve en Suisse. Il énonce aussi le principe aristo-monarchique et héréditaire. Mais la grande question demeure, pourquoi les uns ont-ils le droit de commander et les autres le devoir d'obéir. À travers un parcours passionnant dans l'histoire du 19e siècle européen, en France, en Italie, en Allemagne, Guglielmo Ferrero réfléchit sur cette peur du pouvoir envers ses sujets, ses citoyens. Je cite « Nous avons vu que le pouvoir fait peur à ses sujets, mais a peur d'eux parce qu'il est obligé de s'imposer à ses sujets par la force. La force n'est jamais assurée d'imposer l'obéissance, elle peut aussi provoquer la révolte, et c'est la raison pour laquelle, si elle fait peur, elle a toujours peur. Il considère que la dictature est l'expression de la peur du pouvoir. On peut ajouter que les dictatures fascistes, staliniennes, sont la même expression de cette peur. Nous avons récemment présenté des livres qui en faisaient état dans cette émission. Et même si certains propos sont nécessairement datés dans ce livre, et ne peuvent prendre en considération les faits postérieurs à la Seconde Guerre mondiale, par exemple, je me plais à considérer que cet ouvrage est un guide précieux d'une immense culture, au style délicieusement lisible pour comprendre une vision du monde. Et je terminerai par une citation de Metternich, c'est rare de citer Metternich sur Radio Libertaire, mais une citation d'une actualité rare, « Le mensonge, c'est le vide ». Je rappelle le titre de l'ouvrage, enfin l'auteur et le titre, Guglielmo Ferrero, « Pouvoir, les génies invisibles de la cité » aux éditions Les Belles Lettres en 2024. Voilà qui permet de réfléchir. Ensuite, nous allons passer une intervention, voilà, de Marie qui nous fait réfléchir sur le livre de Michael Chelal, Grandir en cité, la socialisation résidentielle de jeunes de cité. C'est paru aux éditions Le Bordelot en 2025. Et comme elle est obligée d'enregistrer au préalable en raison de ses cours, eh bien, nous passons son intervention. Hélène, c'est bon? On y va.
Ou d'électricité.
Alors, dans l'ouvrage Grandir en cité, la notion de l'espèce et de ses variations résidentielles des jeunes de cité par le sociologue Michael Chelal, paru en 2025 aux éditions Le Bordelot, collection documents. Sa vie, son dans cet ouvrage, l'auteur, lui-même originaire de la cité, puisqu'il a grandi en Seine-Saint-Denis, nous dévoile une analyse de où s'entremêle à la fois son vécu personnel et son analyse sociologique de ce vaste espace urbain résidentiel et social communément appelé la cité, et qui est bien souvent connoté de manière péjorative par les politiques et les médias qui se plaisent à la présenter comme une zone de non-droit ou de désordre. Mais bien au-delà de ces nombreux préjugés sociaux, le travail de sociologie justement permet de mettre en exergue des observations et des témoignages recueillis sur le terrain qui permettent de comprendre la complexité des rapports sociaux en prenant en compte les différents facteurs propres à chaque individu, tels que l'âge, le sexe, la situation socio-professionnelle, la vie personnelle, l'origine. Donc, cette enquête sociologique, menée entre 2014 et 2021 et centrée sur les jeunes de cité et la façon dont ils se sociabilisent au sein de leur lieu de résidence, avec l'exemple du quartier des Marnaudes de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, nous invite à nous plonger dans l'intimité des grands ensembles de la cité à travers des récits, des descriptions, portraits et extraits de conversations, autant d'éléments qui nous permettent d'appréhender cet espace et cette catégorie d'âge souvent mal considérée, voire stigmatisée parce que mal compris. La jeunesse, qui constitue les enfants, les adolescents et les jeunes adultes entre 5 et 30 ans en moyenne, est omniprésente dans la vie de la cité. La plupart des jeunes qui vivent dans les cités y sont nés et apprennent donc très tôt les règles et les codes à respecter à travers une culture de rue. Cette jeunesse est représentée par deux catégories, les petits et les grands. Et c'est sur cet axe que Michael Chelal se focalise dans cet ouvrage, en s'intéressant à la socialisation des filles et des garçons appartenant à la génération de cité, c'est-à-dire la génération qui est née entre la fin des années 1980 et le début des années 2010, qui habite et évolue au sein de la cité. Et donc cet ouvrage s'intéresse bien sur le rapport en fait entre les petits et les grands et la façon dont la cité influence sur les individualités, toujours à travers cette notion de sociabilité. De l'homme comme d'un être. Contrairement aux apparences, les filles ne sont pas.
Bon, bah écoutez, on a déjà un premier problème technique, c'est compliqué. Donc on va poursuivre, vous êtes toujours sur Radio Libertaire. Et depuis le début de l'émission, nous mentionnons les titres des ouvrages. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog du groupe Commune de Paris, de la Fédération anarchiste. Et puis, nous allons aborder, j'espère que ça va bien se passer, sinon c'est très embêtant, nous allons aborder avec notre invité un moment d'émotion dans notre émission. Nous commémorons les 80 ans de la libération d'Auschwitz, et je voudrais que nous écoutions, avant de rentrer dans ce sinistre camp, un chant écrit par un déporté au camp de Theresienstadt, vous savez, Theresienstadt. Les nazis y regroupaient des musiciens, des artistes, et les obligeaient à donner l'illusion d'un camp humaniste, notamment lors des passages de la Croix-Rouge. On va commencer par écouter Hélène Saïra. On va essayer en tout cas que ça aille. On va commencer en écoutant une chanson de Ilse Weber qui se promène, si je puis dire, dans Theresienstadt.
On pourrait la dire
chanson
que
fait si 2 minutes 38 et ensuite nous aurons le dialogue avec Roger Fallenberg.
Aujourd'hui, elle s'attache surtout à étudier les infiniment petits, les individus dont se composent ces sommes et dont elle a fini par reconnaître l'indépendance et l'individualité en même temps que leur agrégation intime. Quant à l'harmonie que l'esprit découvre dans la nature, et qui n'est au fond que la constatation d'une certaine stabilité des phénomènes, le savant moderne la reconnaît sans doute aujourd'hui plus que jamais. Mais il ne cherche pas à l'expliquer par l'action des lois conçues selon un certain plan préétabli par une volonté intelligente. Ce que l'on appelait le naturel n'est plus qu'un rapprochement entre certains phénomènes entrevus par nous, et chaque loi naturelle prend un caractère conditionnel de causalité, c'est-à-dire si tel phénomène se produit dans telle condition, tel autre phénomène suivra. Point de loi placé en dehors du phénomène. Chaque phénomène gouverne celui qui lui succède, non la loi. Rien de préconçu dans ce que nous appelons l'harmonie de la nature. Le hasard des chocs et des rencontres a suffi pour l'établir. Tel phénomène durera des siècles. Alors, eh bien, écoutez, apparemment, ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc, second temps de l'émission, nous allons recevoir Roger Fallenberg. Je suis très heureux de l'accueillir dans cette émission qui est placée sous les valeurs de l'humanisme. Écoutons-le, c'est un entretien qui dure 43 minutes, mais je pense que ce qu'il apporte dans son témoignage, puisqu'en fait ce sont les cahiers de son père, comme vous le découvrirez, je pense que c'est très très important. Et ensuite nous aurons un autre chant en conclusion de cet entretien. Hélène, on peut lancer l'entretien avec Roger ?
Bonjour Roger Fagisberg, merci de nous accueillir pour nous parler d'un livre qui vous tient à cœur, un livre à la fois passionnant et émouvant, « Ce que j'ai vu à Auschwitz », les cahiers d'Alter qui sont publiés récemment aux éditions du Seuil. Alter, c'est ton père. Il a vécu l'enfer des camps et à son retour, il a écrit 4 cahiers que tu présentes dans un livre avec la collaboration d'Alban Perrin, un historien spécialiste de ces questions. Le livre est fort. Il commence par cette phrase « Nous sommes là ». Qu'est-ce que ça veut dire « nous sommes là » ?
C'est une expression yiddish. Wir sind da. Ça veut dire qu'on a survécu malgré la tentative d'extermination organisée par l'Allemagne nazie. La Shoah, les meurtres, les assassinats, les déportations. Et malgré tout, il y a des survivants qui sont là et qui entendent revivre.
Dans l'introduction, tu écris « 77 ans et un peu plus désormais ». C'est maintenant seulement que je me sens le courage de livrer sur la place publique le témoignage de mon père qui a été déporté dès 1942 avec le premier convoi parti de France. Donc ton père écrit un témoignage au lendemain de la guerre. Il est décédé en 1987.
Oui.
Et c'est en 2025 que tu publies ce livre. Pourquoi ce silence, cette retenue, cette discrétion ?
Parce que c'était trop difficile pour moi d'ouvrir les cahiers. En fait, ces cahiers étaient enfermés dans une boîte à chaussures qui était chez nous, à Montmartre, quand je vivais avec mes parents, depuis mon plus jeune âge. Cette boîte était fermée. Et elle nous a accompagnés dans toute notre vie. Et quand mes parents sont décédés, je n'ai pas eu le courage, pas la force, d'ouvrir de peur d'apprendre des informations sur les sévices qu'ils auraient subis au-delà de ce que je savais déjà, parce que je n'ai pas découvert leur histoire en 2025, ni en 2005 quand j'ai ouvert la boîte. Je l'ai su tout le temps. Mes parents, comme souvent les parents déportés, ne parlaient pas à leurs enfants, ne leur racontaient pas pour les préserver. Mes parents voulaient me préserver, m'éviter de vivre, j'irais dans leurs traces, les horreurs qu'ils avaient connues. Et donc, ils ne me parlaient pas directement, mais ils parlaient à leurs amis, aux membres de la famille, avec qui ils discutaient de tout, de la vie, de leur histoire, de leurs souvenirs. Et moi, j'entendais. Ils parlaient en yiddish, je comprenais le yiddish, et quand ils ne voulaient pas que je comprenne le sens de ce qu'ils disaient, ils se mettaient à parler en polonais, que je ne connaissais pas. Ce qui veut dire à la fois qu'ils ne me parlaient pas directement, mais qu'ils me parlaient quand même, puisqu'il y avait des moments où ils se laissaient aller à parler une langue que je connaissais, et d'autres moments où ils faisaient attention à parler une langue que je ne connaissais pas.
Et là, donc, on est dans une logique de la transmission. C'est ce que tu écris aussi à un moment. C'est pas simplement une publication que tu fais. Qu'est-ce qu'on transmet ? C'est le fils qui transmet
Ça n'est ni un roman, ça n'est pas une fiction du tout. C'est l'écriture, c'est la transmission d'un document original, sans aucun ajout et sans aucune modification. Un document qui a été écrit dès la libération, entre septembre 1945 et le printemps 1946.
Écrit en polonais.
Écrit en polonais.
Et donc on a la traduction, on a dans le livre, on a les facsimilés manuscrits, donc le manuscrit, on a le texte dactylographié, et puis on a la traduction française, parce que sinon, oui, on aurait quelques difficultés.
Oui, absolument. Et écrit en polonais, en effet, parce que, et c'est une question, d'abord, quand j'ai ouvert la boîte, je ne savais pas que c'était écrit en polonais, dans quelle langue c'était écrit. Ça aurait pu être écrit en yiddish aussi, qu'il parlait, qu'il écrivait naturellement, couramment. Mais je crois que mon père a écrit ce texte en polonais pour deux raisons principales. La première, c'est que le polonais était sa langue de militantisme politique. Et c'est un premier élément. Et le second élément, c'est que ces textes ont été écrits pour servir, sans doute, pour la commission d'investigation sur les crimes de guerre qui avait été montée par les autorités polonaises dès la libération des camps, et auprès de laquelle, commission auprès de laquelle, mon père a témoigné, et nous avons la trace d'un compte-rendu de témoignage qu'il a donné à ce moment-là, et je pense que quand il est rentré en France, il a continué à documenter ce qu'il envisageait de transmettre à la commission.
Alors, j'imagine que c'est difficile d'être un fils de déporté. Ça pèse, non ? C'est les souffrances vécues, etc. Ça pèse, non ?
Bien sûr, oui. Bien sûr. Je dirais que c'est à la fois dur d'être fils de déporté, et j'affirme en même temps que j'ai eu une enfance heureuse. Les deux, pour moi, n'ont pas été contradictoires. Donc,
c'est ce qu'on voit sur les photos, d'ailleurs, puisqu'à la fin, dans la troisième partie du livre, il y a des photos, on te voit avec les parents, enfin, c'est... Oui, il y a une enfance heureuse. Hein.
Oui, j'ai voulu montrer, en effet, que j'ai eu une enfance heureuse et qu'ils ont tout fait. Finalement, ce que j'ai compris, c'est que mes parents, après la guerre, après ce qu'ils avaient subi et souffert, n'ont plus vécu pour eux-mêmes. Je crois que leur seul objectif, c'était à la fois de transmettre ce qu'ils avaient vécu pour que cela serve dans l'instruction des procédures et des condamnations des auteurs des crimes nazis, mais qu'ensuite, leur objectif central, c'était de donner la vie et de permettre à leur descendance de reprendre une vie heureuse et de poursuivre le chemin. Quand je regarde, mes parents étaient de conditions modestes. Nous vivions dans un très petit appartement à Montmartre.
Qu'avaient-ils comme métier ?
Alors, ils étaient ouvriers à domicile, ils étaient tailleurs pour hommes. Mon père et ma mère fabriquaient des pantalons. Et il travaillait dans notre appartement du 48 rue des Trois Frères, où nous vivions dans un deux pièces qui faisait à peu près 27-28 mètres carrés.
Oui.
Il y avait à la fois dans une pièce les machines à coudre et la table sur laquelle mon père coupait le tissu et repassait les pantalons une fois qu'ils étaient faits.
Tu le décris dans le livre.
Je le décris dans le livre parce que pour moi ce sont des éléments importants. Et c'est là que j'ai vécu jusqu'au bac, jusqu'à mes 18 ans.
Alors, ton père vient de Pologne, c'est ça ?
Oui, mes deux parents viennent de Pologne.
Les deux parents, hein ?
Oui.
Oui. Mais ils se rencontreront à Paris.
Ils se rencontrent à Paris, ils étaient de régions différentes, ils ne se connaissaient ni avant la guerre, et ils ne se sont pas connus dans les camps. Ma mère, elle, a fait le choix, alors qu'elle était déportée de Pologne, de rejoindre la France pour retrouver son frère aîné qui avait émigré en 1929, qui lui aussi avait été survivant de la Deuxième Guerre mondiale, et qui était revenu en France pour retrouver son fils, qu'il avait confié à une famille française, et qu'il avait caché et hébergé pendant la guerre.
Alors, ton père, c'est un militant.
C'est avant tout un militant.
Hein, ça apparaît bien, même dans son discours, dans la manière dont il relate les faits pendant son triste séjour au camp. Il part de Pologne, il intègre les brigades internationales. Et pourquoi s'installe-t-il à Paris avant-guerre ? Et d'abord, l'expérience brigade internationale, c'est intéressant, ça.
Il ne s'installe pas à Paris. Il ne s'installe pas à Paris. Brigade internationale,
oui.
Il participe à la guerre d'Espagne. Au moment où les franquistes avancent et l'emportent, malheureusement, de nombreux républicains espagnols et les brigadistes refluent vers la France, se retrouvent internés dans les camps d'internement des Pyrénées-Orientales ou des Pyrénées-Atlantiques, Gurs-Atlantiques, Saint-Cyprien, Rives-Altes. Et puis arrive le début de la Seconde Guerre mondiale, l'invasion de la France par l'Allemagne. Et à ce moment-là, mon père accepte de... En cachant son nom et son identité, de travailler dans la construction du mur de l'Atlantique à l'Orient pendant quelques mois. Et à ce moment-là, un autre brigadiste polonais menace de le dénoncer comme juif. Et il s'enfuit donc de l'Orient et il rejoint Paris, où il avait des contacts avec la résistance française.
Et il se cache là.
Et il se cache donc tout
dans
ce qu'il a connu
dans quel coin
dans le 11e arrondissement.
Dans le 11e.
Et donc tout ce qu'il a connu de la vie parisienne ou de la vie française, c'est uniquement les camps d'internement du sud de la France et la planque à Paris. Donc on ne peut pas dire qu'il a vraiment vécu à Paris.
D'accord.
Sauf qu'il a été déporté, il a été pris.
Il a
été arrêté par des policiers français.
Parce qu'il était juif ou parce qu'il était résistant
parce qu'il n'avait pas de papier officiel. Et donc, à ce moment-là, ils ont vu à la fois qu'il était juif et qu'il était. Ils ont compris qu'il était résistant. Donc, envoyé à Drancy.
Ah oui, Drancy. Ouais.
Voilà. Et à Drancy, où il passe un certain nombre de semaines, il fait partie du premier convoi constitué de déportés de Drancy et de Compiègne.
Tu peux nous rappeler la date du premier convoi ?
Alors, le premier convoi est parti de Drancy et de Compiègne le 27 mars 1942.
40.
Et c'est le premier convoi parti de France, mais aussi parti d'Europe occidentale. Mmh. Et c'est un élément important parce que finalement, mon père a connu Auschwitz dès le tout début, avant qu'Auschwitz ne soit vraiment ce camp d'extermination qu'il est devenu avec Birkenau et ce qu'on a connu après. Mmh. À l'époque, quand mon père est arrivé avec ce premier convoi à Auschwitz, ils étaient 1120 en vie en arrivant à Auschwitz, et il n'était plus qu'une trentaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais il a connu un petit camp avec des déportés allemands, polonais, des soldats soviétiques, des juifs. Et petit à petit, il décrit aussi dans son témoignage le développement de ce camp, la construction de Birkenau et les crématoires et les chambres à gaz.
Il est intégré dans les Sonderkommando. Qu'est-ce que c'est, les Sonderkommando ?
D'abord, c'est un terme barbare. Quand on le prononce, rien qu'en l'entendant, c'est un terme qui fait peur. Mmh. Et donc c'est important de se poser cette question, parce que le mot Sonderkommando recouvre plusieurs acceptions. Ce sont des commandos spéciaux, parce que les Allemands utilisaient toujours une terminologie qui ne disait pas les choses telles qu'elles étaient. Donc on parle de commando spécial, commando particulier. Alors il y avait des premiers commandos spéciaux en Ukraine et en Pologne qui étaient des auxiliaires de l'armée allemande, volontaires, qui participaient au massacre des populations juives plus l'armée allemande avançait. Mmh. Et puis il y avait ce Sonderkommando de Birkenau, qui lui est différent puisqu'il est composé de détenus, de déportés que l'on contraint à faire partie de ces brigades. Mmh. Il ne pouvait pas refuser, il n'avait aucunement le droit à la parole, on les intègre là-dedans, on les force, et ces commandos avaient uniquement pour mission de sortir les cadavres des déportés qui avaient été gazés par le cyclone B, dans les chambres à gaz, de les dépouiller de ce qu'il restait éventuellement d'objets de valeur sur eux essentiellement quand il y avait des dents en or,
oui.
ou bien de raser les femmes qui venaient d'être gazées, parce que à Birkenau, contrairement à d'autres camps, on ne rasait pas avant le gazage, on rasait après, et ça, ça a été prouvé scientifiquement par des prélèvements qui ont été faits sur les cheveux, et ces cheveux devaient servir à l'industrie allemande. Et une fois que ce travail macabre avait été fait, eh bien, l'objectif était de faire disparaître les corps. Donc, dans un premier temps, dans des fosses communes où ils étaient brûlés et recouverts de chaux vives, et ensuite dans les fours crématoires, et à Birkenau, le four crématoire numéro 2, 3, 4 et 5, puis ensuite de sortir les cendres et de déverser les cendres, de les répandre dans la rivière qui coulait à côté du camp de concentration.
Il aurait pu refuser, non ? Mais il a une explication, militante.
Non, refuser, il n'aurait pas pu refuser.
Il aurait pu se faire tuer.
Il aurait même pu se suicider.
Oui, il refuse. Alors, il a une explication militante.
Oui.
Il refuse le suicide, pour les mêmes raisons d'ailleurs, parce qu'il croit dans l'avenir.
Il refuse le suicide pour témoigner, persuadé qu'il était, que les Allemands perdraient, en fin de compte, la guerre, et que les troupes soviétiques avanceraient, et qu'il serait libéré, et qu'il fallait être là pour témoigner, pour raconter et pour dénoncer.
Oui, c'est cette confiance dans l'avenir qui apparaît dans des pages où... Bon, alors évidemment, il l'écrit en 45-46, mais on peut se dire, mais quelle force militante de conviction il fallait avoir pour croire encore dans l'avenir dans ces camps, quoi, dans cette situation.
Je crois que ça a été un élément essentiel de sa survie. Souvent, on me pose la question... comment a-t-il fait ? D'abord, il y a la chance. Parce que chaque matin, il aurait pu être envoyé à la mort.
Oui.
Ou à chaque instant, il suffisait qu'un soldat allemand soit de mauvaise humeur ou de mauvais poil et il pouvait désigner tel ou tel déporté pour l'exécution. Donc, la chance d'abord. La santé physique... ensuite, pour tenir le coup pendant toute cette période. Et puis, je crois, en effet, la force de la croyance. Alors, j'utilise le mot croyance pour un militant communiste, athée, non religieux. Mais il fallait avoir une sacrée confiance dans l'avenir, une certitude quasi mystique que des jours meilleurs viendraient et qu'il fallait être là pour tenir le coup.
Alors, au lendemain de la guerre, il écrit 4 cahiers de notes, et le cahier rouge a pour titre « Ce que j'ai vu dans le paradis hitlérien d'Auschwitz ».
Oui.
C'est comme une adresse aux révisionnistes d'aujourd'hui, le paradis hitlérien, ouais. Alors que c'est l'illusion que les nazis voulaient donner.
Oui, tout à fait. Mon père était, et c'est, si vous voulez, un des paradoxes. Mon père n'avait pas de formation littéraire. Il a écrit alors qu'il était autodidacte, qu'il n'avait jamais été à l'école, qu'il avait appris à lire et à écrire au contact des autres militants dans les prisons de Pologne. Et dès la libération, il se met à écrire. Il avait déjà témoigné une première fois à Cracovie, dès la libération en Pologne.
Oui, il y a deux témoignages, deux grands. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais...
Il y en a quelques-uns. J'irai dans l'ordre. Il y a d'abord le témoignage de Cracovie auprès de la commission polonaise. Et puis ensuite, quelques semaines après, il témoigne en hongrois, auprès d'une commission hongroise, dans un train... dans lequel il convoyait des déportés hongrois et roumains qui souhaitaient retourner dans leur pays, et il faisait partie de ceux qui encadraient ce convoi. Et puis ensuite, il témoigne aussi auprès de la commission française à Reims, lorsqu'il arrive en France. Et là, il apporte à la commission française des informations précises sur la manière dont avait été assassiné le frère de Léon Blum.
Oui.
Puisque Léon Blum, sans doute, de par ses responsabilités, avait demandé auprès de cette commission du ministère français d'enquêter sur les conditions dans lesquelles son frère
Robert avait
disparu. Mmh. Et mon père explique la manière dont il était arrivé à Auschwitz et dont il avait été enfourné vivant. Dans le crématoire.
Ça, il y a le témoignage. Hein. Ça, c'est dans le livre, ça.
C'est dans le livre, et vous verrez, c'est dans le livre précédé par une mention SI, c'est-à-dire sur interrogation. Et là, c'est pas lui qui spontanément a dit les choses, c'est sur interrogation des enquêteurs qui lui demandent s'il avait entendu parler de Blum.
Alors ces descriptions, bah, comme celles qu'on vient d'évoquer, ces descriptions sont précises, terribles. Je cite un exemple. Pour réaliser son œuvre, l'agresseur avait de nombreuses armes, les chambres à gaz, entre parenthèses les bains, tu nous expliqueras pourquoi, les bains, les sections SS avec leurs mitrailleuses, les grenades à main, les grands chiens, les coups, etc. Et tout cela employé avec sadisme et bestialité, avec préméditation et un sourire agréable aux lèvres. Alors, il y a un nom, là, Unterscharfuhrer, je ne sais pas si je le prononce très mal, probablement, et ces scènes vont hanter les survivants, ça, c'est, certains vont se suicider, Primo Levi ne supportera pas, notamment, mais il y a aussi les cauchemars de ta mère, tu en fais état, les insomnies et les silences du père. C'est, je pense que ça, on peut pas les oublier quand on voit des choses comme ça. Les bains, c'est quoi?
Oh, les bains, c'est la promesse que les Allemands faisaient.
L'histoire des douches.
Oui, les douches.
Ça.
Et on leur promettait qu'ils se laveraient et qu'ensuite ils auraient un bon petit déjeuner avec du café chaud. Voilà. Et après, c'est comme ça qu'on les emmenait vers la chambre à gaz.
Après, des jours dans des trains, ben, tout ce qui est relaté avec dans les gens qui meurent, et je crois qu'on comptait même les morts. Il fallait qu'à l'arrivée, il y en ait autant qu'au départ, ou je sais pas quoi. Enfin, ils étaient très bureaucrates.
Hein. Ah, les Allemands étaient Allemands, très, très bureaucrates et tatillons. Et chaque matin, on comptait les vivants, et s'il manquait l'un ou l'autre d'entre eux, on allait voir s'ils étaient dans les infirmeries ou s'ils étaient où ils pouvaient être pour que les chiffres concordent et on comptait et on recomptait dans le froid, dans la neige.
Le froid, c'est pas moins de degrés.
Ah, le froid, c'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui.
Hein, où là, on a en France, protesté.
C'est moins 10, moins 15 degrés.
Oui.
C'est le froid du cœur de la Pologne dans l'Europe continentale, absolument.
Et puis, il y a un autre intérêt du livre, c'est la démonstration de la révolte des déportés. Et dès l'arrivée, il en témoigne. Moi, je trouve ça intéressant. J'ai entendu aussi une autre appréciation là-dessus, où justement les historiens commencent à dire « Ouais, mais contrairement aux affirmations, les Juifs se sont défendus, avec leurs faibles moyens, bien sûr, mais oui, ils ont accepté, etc. » Non, il y a eu des moments de révolte dans les camps, et même à l'arrivée.
Il y a eu à chaque moment.
Ouais.
De la résistance et de la révolte. Contrairement à ce que l'on pense, les Juifs ne se sont pas laissés emmener comme des moutons vers les chambres à gaz.
Ouais, ça, faut le dire, ça.
Et ça, c'est important. Mmh. Et mon père montre comment lui et les anciens des brigades internationales qui se retrouvaient à Auschwitz se sont organisés. Mais d'autres se sont organisés aussi. Il y a eu beaucoup, beaucoup, et heureusement, maintenant, les historiens documentent de manière importante les différents actes de résistance qui pouvaient être de nature extrêmement diverse, de résistance, d'entraide, de soutien, qu'ils essayaient de s'apporter autant que faire se peut les uns les autres. Mais ils racontent aussi la décision prise de d'essayer de soulever le camp par une révolte généralisée en se préparant.
Oui, il y a d'ailleurs un témoignage, alors il y a un réseau de résistants, tu l'évoques, dans le camp, il y a des échanges avec l'extérieur, et oui, notamment avec la résistance polonaise, parce qu'on dit toujours que les Polonais étaient antisémites, etc. Bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y avait quand même des résistants polonais qui faisaient le lien. Mais quel courage pour les deux, parce que...
Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que Auschwitz-Birkenau n'était pas au milieu d'un désert.
Oui.
Les villages et les villes polonaises n'étaient pas très loin. Je pense même que les odeurs des crématoires devaient se sentir, dans certains de ces villages.
Oui, certainement, oui.
Voilà. Donc le lien avec l'extérieur existait faiblement, mais il existait.
Et des gens arrivaient à passer et à re-rentrer dans le camp.
Des gens arrivaient à passer et à faire rentrer un certain nombre de matériel dans le camp, en nombre limité.
Il y a des témoignages.
Il y a des témoignages. Alors, on s'est souvent posé la question si l'appareil photo qui a servi à la prise des quatre photos que l'on connaît désormais prises par les résistants, dont faisait partie mon père, venaient de l'extérieur ou venaient de l'intérieur du camp. La conclusion, c'est que cet appareil photo faisait partie des stocks d'appareils et d'autres biens que les Allemands avaient confisqués aux déportés lorsqu'ils arrivaient et qu'ils entreposaient dans un entrepôt qui s'appelait le Canada.
Ah oui, le Canada, ouais.
Et
il y avait des valises, etc.
Il y avait des chaussures, des morceaux de chaussures.
Alors, tout de même, précisons, les photos, les photographies dont nous parlons, bon, elles sont connues dans le monde entier, au nombre de 4 ou 5, quelques-unes.
Nombre de 4.
4, hein, notamment ces femmes nues qui courent vers la chambre,
qui,
à gaz.
Qui ont été déshabillées, qui emmènent vers la chambre à gaz, et ensuite des fosses communes, fumant, puisqu'on voit des volutes de fumée blanche qui s'élèvent.
Et puis on a donc les Sonderkommando, enfin des hommes qui prennent des cadavres et qui les mettent dans les fosses.
Absolument.
C'est ça. Donc ces photos-là qui ont fait le tour du monde, c'est donc comment ont-elles été prises? Donc tu commences à nous donner une réponse avec est-ce que c'était un appareil qu'on a fait rentrer, est-ce que on les a trouvés? Bon, par qui? Et puis évidemment, ces appareils photos, à l'époque, il fallait les pellicules, on les a fait rentrer. C'est, voilà. Non. Et qui a pris ces photos?
Non, on a la pellicule, le bout de pellicule qui restait dans l'appareil, qui a servi à prendre des photos, était dans l'appareil.
D'accord.
Et d'ailleurs, une des photos est à moitié voilée, c'est-à-dire que l'appareil a dû commencer à être ouvert, et quand ils ont vu qu'il y avait... Ils l'ont fermé.
Ouais. Ah. Mmh.
La décision provient de la direction du groupe de résistance du camp de concentration, qui était dirigé par plusieurs déportés, dont l'un, dont le nom est connu, qui est Joseph Sirankiewicz, qui ensuite a été premier ministre polonais après la libération. Et la décision de résistance du camp, c'est de dire il faut des traces, des images. Il faut qu'on puisse faire passer quelque chose qui montre l'extermination, qui montre ce qui se passe. Et donc la décision est prise de faire ces photos, mais seuls pouvaient les faire les membres du Sonderkommando, parce que c'était les seuls qui étaient en contact avec le cœur de l'extermination. C'était ceux qui étaient auprès des chambres à gaz et auprès des fours crématoires. Donc un groupe de 4 est constitué, avec les frères Dragon, mon père, et un déporté grec, qui est celui qui appuie sur le déclic de l'appareil. Mm-hmm. Et on a mis beaucoup de temps à déterminer son nom et à retrouver son nom, et c'est mon père qui, dans ses cahiers, à 2 reprises, permet de reconstituer le nom, puisqu'à un moment donné, il dit que celui qui a pris la photo est un déporté grec qui, ensuite, est mort chargé de conduire un camion avec des dépouilles vers l'extérieur et qui s'est précipité vers des soldats allemands, puis a été abattu. Et dans un autre témoignage, lui et d'autres parlent d'un détenu grec qui s'appelle Alex Herrera, ou de son nom de guerre, Aleko Herrera, et le lien est fait entre ce Aleko et Herrera et le grec qui a pris la photo, et donc désormais, il est établi que Aleko Herrera est bien l'auteur direct de la photo avec le groupe des trois autres déportés.
Les originaux, la pellicule, où est-elle? Où sont-ils?
Alors, on ne sait plus.
On ne sait plus.
On ne sait plus parce que une fois que le groupe de quatre a pris les photos, ils ont fait passer la pellicule à la résistance du camp qui l'a fait sortir à l'extérieur auprès de la résistance polonaise, et l'appareil a été enterré sous la terre.
D'accord. Et alors on en arrive au démantèlement des installations et du crématorium. Que devaient devenir les membres du Sonderkommando? D'abord, je crois qu'on les éliminait au fur et à mesure, ils ne devaient pas rester trop longtemps.
Ils étaient éliminés au fur et à mesure parce que les Allemands ne voulaient pas, faisaient tout pour éviter que des traces subsistent de leur forfait. Et donc, effectivement, les membres des Sonderkommando étaient assassinés régulièrement pour ne pas pouvoir témoigner de ce qu'ils avaient vu. Mon père a eu cette chance de tenir le coup pendant 18 mois dans le Sonderkommando, lui et quelques autres.
Et comment s'en sort-il?
Eh bien, à la fin de la guerre, quand il constate que les nazis recherchent les derniers membres du Sonderkommando dans cette pagaille qui était celle de Birkenau à l'approche des troupes soviétiques, il recherche tous les membres de Sonderkommando pour les abattre un par un. Et donc, lui et un autre membre du Sonderkommando décident de se fondre aux déportés qu'on commençait à emmener dans la grande marche,
oui,
pour les ramener vers le cœur de l'Allemagne, vers d'autres camps de concentration pour éviter d'être libérés par les soviétiques. Donc ils décident tous les deux de se fondre avec les autres déportés qui n'étaient pas dans les Sonderkommando et qui étaient dans le camp principal. Ils commencent la grande marche et quelques jours après, ils s'enfuient de la marche et se réfugient dans une ferme, ou plus exactement dans une meule de foin, dans laquelle une agricultrice polonaise leur apporte régulièrement de quoi manger.
Courageuse, cette dame.
Une dame courageuse que mon père a retrouvée en 1985
oui,
en Pologne.
Oui, je l'ai lu, oui. D'accord.
Et c'était extraordinaire. Donc cette femme, effectivement, leur apporte des victuailles, leur apporte ça la nuit, parce que dans la journée, bien sûr, il ne fallait pas se montrer. Et ils sont cachés pendant plusieurs semaines dans une meule de foin, dans une Pologne où, en février, il faisait froid encore, oui, il pleuvait, et ils racontent comment leur couverture unique, puisqu'ils avaient une couverture pour deux, était humide et mouillé en permanence,
ouais, trempé, et
donc à un moment donné ils sont bien obligés de sortir de cette cachette pour essayer de trouver une solution un peu plus pérenne.
Alors bon, ça c'est dans le livre, on va pas tout raconter, il faut que les gens, nos auditrices et nos auditeurs puissent lire ce livre, ce témoignage passionnant. Après il rentre en France, là il milite. Il retrouve des activités de militant.
Non seulement il retrouve, mais moi, ce qui m'a ému aux larmes, c'est quand j'ai lu et s'est reproduit dans le livre, le texte d'un tract, écrit de sa main, d'un projet de tract, écrit par une association qu'ils ont constituée des anciens de la Brigade internationale polonaise, la Brigade Dabrowski, et dans lequel, en 1946, ils...
Pourquoi cette brigade de Dobrowski?
Parce que
c'était qui, Dobrowski, déjà?
C'était un Polonais combattant de la Commune de Paris.
Eh oui.
à qui les internationalistes voulaient honorer, et c'était donc le nom de la brigade polonaise qui combattait en Espagne.
Et ce militant, au moment de la Commune de Paris, a notamment défendu la butte aux cailles. Voilà, il était parmi ceux qui...
Absolument. Et donc, dans cette adresse au monde, écrit par des gens qui sortaient de l'enfer quelque temps avant, ils disent en gros, on a vaincu Hitler, on a vaincu Mussolini, il faut continuer le combat pour abattre Franco. Et ils s'adressent aux dirigeants du monde entier en disant, on n'a pas fini le travail, il faut aller jusqu'au bout.
Et on sait ce qui va se passer. Malheureusement, Franco et Salazar vont être protégés pendant de nombreuses années, et d'autres livres écrits par des républicains espagnols dénoncent cette attitude, et on voit bien dans la Nueve notamment qui vont jusqu'à Berchtesgaden et qui se rendent compte que on s'arrêtera là, et alors qu'eux croyaient qu'on allait poursuivre le combat jusqu'au bout contre le fascisme, au moins en Europe. Alors venons-en au livre lui-même. On ouvre la boîte à chaussures, on trouve les cahiers, ils sont écrits en polonais, on l'a dit, ils sont reproduits dans l'ouvrage, et en fait on a trois parties en quelque sorte dans le livre. Est-ce qu'on pourrait... Comment a-t-il été conçu ce livre ?
Effectivement, tel qu'il est, au final, il y a trois parties. Mais je dois dire que ça n'était pas mon projet initial. Au début, mon projet était simplement et seulement, et c'était déjà largement suffisant, de reproduire les documents de mon père, de les traduire, de les expliciter, pour qu'ils soient transmis à mes enfants, à mes petits-enfants, à ma famille, à mes amis. Et donc pour cela, je m'étais dit que le livre était une bonne formule, était la bonne forme pour une transmission pérenne. Mais l'idée n'était pas d'aller plus loin. Et puis en avançant dans la compréhension du texte, en discutant avec Alban Perrin,
Alban Perrin étant un
historien qui a traduit et qui m'a aidé à comprendre les différents textes et qui apporte un certain nombre d'éclairages.
Oui, il y a une conceptualisation.
Sur des termes, des situations qui sont nécessaires pour un public qui n'est pas familier avec l'univers des camps de concentration. Et heureusement, il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Mais on s'est posé à ce moment-là la question de dire, oui, mais il faut expliquer un peu plus en avant, parce que le cœur de la survie de mon père, c'est son engagement militant. Donc il fallait raconter d'où venait cet engagement militant, quelle était sa vie en Pologne dans son enfance, à partir de quel moment il s'est engagé dans l'action syndicale, dans l'action politique. Il a adhéré à la jeunesse communiste polonaise et au Parti communiste polonais. Il a fait de la prison en Pologne, dans un pays qui était dirigé par un gouvernement totalement extrémiste. Il a fait le choix de partir en Espagne en 1937. Il a été interné dans le sud. Donc, nous voulions documenter ces éléments-là et retrouver un certain nombre de matériaux. Et ça a été très compliqué. Rien que pour retrouver l'acte de naissance de mon père, nous avons eu beaucoup de mal, puisqu'en nous adressant aux autorités du village où il était né, eux ne retrouvaient rien, parce que mon père était né à une période où le village de sa naissance était dans l'empire tsariste, et donc son acte de naissance était écrit en cyrillique russe, et que personne ne faisait le lien entre ce document en cyrillique russe et mon père. Donc il a fallu que quelqu'un nous prouve que c'était bien son acte de naissance à lui, et nous le traduise. Concernant la guerre d'Espagne, nous avons eu la chance que Denis Péchanski, l'historien que l'on connaît, nous signale que les archives du Comintern venaient d'ouvrir à la consultation publique, et que nous puissions envoyer ou demander à une doctorante qui travaillait à Moscou à l'époque, d'essayer d'aller fouiller dans les archives du Comintern pour voir s'il y avait des documents concernant mon père. Et on a retrouvé, grâce à elle, un document, et notamment toute sa biographie écrite en espagnol au moment de sa demande d'adhésion au Parti communiste espagnol en 1937. Voyez, donc il y a toute une série d'éléments qui ont permis de documenter notre propos. Et puis, une fois que tout ça a été écrit, ma discussion avec Anne-Julie Bémon, qui m'a accompagné et qui m'a aidé à...
Qui est
directrice des publications de Radio France, mais qui, à titre bénévole et amical, m'a aidé à finaliser le livre et m'a dit il faut absolument qu'il y ait une partie qui parle de la vie d'après, de la reconstruction de tes parents, de la manière dont toi, en tant que gamin, tu as pris conscience de tout cela. Et donc, à ce moment-là, j'ai écrit une dernière partie sur les souvenirs que j'avais avec mes parents à cette période, sur notre vie à Montmartre, où j'ai vécu heureux pendant les 18 premières années de ma vie. Et je raconte ce qu'était Montmartre en ces temps-là et notre quotidien, pour montrer aussi comment... en tant qu'enfant de déporté, j'avais pris connaissance et comment, malgré la dureté de ce qu'avaient vécu mes parents, ils avaient tout fait pour me donner la joie de vivre et me permettre de m'épanouir.
Alors aujourd'hui, le travail est achevé ou bien tu reprends une phrase du chant des partisans du ghetto de Vilnius là, que tu as écrit tu as repris en français et en yiddish, c'est jamais fini ?
Ça n'est jamais fini, parce que plus on travaille sur un sujet et plus des informations arrivent. Ce qui est extraordinaire, c'est que le réseau des historiens, des chercheurs, à partir du moment où ils ont su que je travaillais sur ce projet, j'ai reçu des documents jusqu'à il y a encore quelques jours, que je n'ai pas pu exploiter dans le livre, bien évidemment, mais qui pourraient éventuellement demain servir à aller un peu plus loin dans cette explication.
D'accord. Alors, je dois dire aux auditrices et des auditeurs qu'on a une photo du père de Roger dans son bureau, là, en tenue de déporté.
Hein. Oui.
Et je tiens à remercier Roger Fachsisberg pour cet échange, et je rappelle le titre de l'ouvrage « Ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alter » qui sont publiés aux éditions du Seuil. Je vous invite vraiment à lire ce document, c'est un témoignage poignant, mais c'est un témoignage lucide et qui donne des perspectives de vie.
Merci à vous.
Merci.
Et voilà donc l'interview de Roger. En conclusion, je vous propose un autre chant, toujours d'Ilse Weber. Je pense qu'on n'a même pas besoin de le traduire. « Ade, camarade ».
Ade, camarade, hier teilt sich dein Pfand, denn morgen muss ich fort. Ich scheide von dir, man treibt mich von dir, ich geh mit dem Polentransport, ich geh mit dem Polentransport. Du gabst mir oft Mut, treu warst du und gut, zum Helfen immer bereit. Ein Druck deiner Hand hat die Sorgen gebannt. Wir trugen gemeinsam das Leid. Wir trugen gemeinsam das Leid. Ade, Kamerad, um dich ist der Schad, der anzieht, wird mir schwer. Verlier nicht den Mut, ich war dir so gut, jetzt sehen wir uns nimmer mehr, jetzt sehen wir uns nimmer mehr.
Eh bien, nous allons tenter l'aventure dans ce petit studio de Radio Libertaire. Nous allons tenter de repasser l'intervention de Marie concernant le livre de Michael Chollal, Grandir en cité, la socialisation résidentielle de jeunes en cité aux éditions Le Bordelot. Hélène, on peut l'envoyer ?
Alors, l'ouvrage Grandir en cité, la socialisation résidentielle des jeunes de cité par le sociologue Michael Chollal, paru en 2025 aux éditions Le Bordelot, collection documents. Dans cet ouvrage, l'auteur, lui-même originaire de la cité, puisqu'il a grandi en Seine-Saint-Denis, nous dévoile une analyse où s'entremêlent à la fois son vécu personnel et son analyse sociologique de ce vaste espace urbain résidentiel et social communément appelé la cité et qui est bien souvent connoté de manière péjorative par les politiques et les médias qui se plaisent à la présenter comme une zone de non-droit ou de désordre. Mais bien au-delà de ces nombreux préjugés sociaux, le travail de sociologie justement permet de mettre en exergue des observations et des témoignages recueillis sur le terrain qui permettent de comprendre la complexité des rapports sociaux en prenant en compte les différents facteurs propres à chaque individu tels que l'âge, le sexe, la situation socio-professionnelle, la vie personnelle, l'origine. Donc, cette enquête sociologique menée entre 2014 et 2021 est centrée sur les jeunes de cité et la façon dont ils se sociabilisent au sein de leur lieu de résidence, avec l'exemple du quartier des Marnaudes de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, nous invite à nous plonger dans l'intimité des grands ensembles de la cité à travers des récits, des descriptions, portraits et extraits de conversations, autant d'éléments qui nous permettent d'appréhender cet espace et cette catégorie d'âge souvent mal considérée, voire stigmatisée parce que mal compris. La jeunesse, qui constitue les enfants, les adolescents et les jeunes adultes entre 5 et 30 ans en moyenne, est omniprésente dans la vie de la cité. La plupart des jeunes qui vivent dans les cités y sont nés et apprennent donc très tôt les règles et les codes à respecter à travers une culture de rue. Cette jeunesse est représentée par deux catégories, les petits et les grands. Et c'est sur cet axe que Michael Chollal se focalise dans cet ouvrage en s'intéressant à la socialisation des filles et des garçons appartenant à la génération de cité, donc c'est-à-dire la génération qui est née entre la fin des années 1980 et le début des années 2010, donc qui habite et évolue au sein de la cité. Et donc cet ouvrage s'intéresse bien sur le rapport en fait entre les petits et les grands et la façon dont la cité influe sur les individualités, toujours à travers cette notion de sociabilité. Contrairement aux apparences, les filles ne sont pas invisibles au sein de la cité, de la vie de la cité, même si leurs trajectoires de vie sont différentes de celles des garçons, notamment d'un point de vue scolaire. Le cursus scolaire des filles est souvent meilleur que celui des garçons. L'occupation par les garçons ne se limite pas spécifiquement au hall des immeubles. Il serait d'ailleurs assez réducteur de l'associer systématiquement à un comportement délinquant. L'architecture des grands ensembles a été pensée de façon à permettre une sécurisation des aires de jeu pour les enfants. Ainsi, les parents peuvent laisser leurs enfants jouer de manière relativement autonome, sans avoir besoin de les surveiller en permanence. Ces enfants, qui ont acquis assez jeune cette autonomie, se réunissent souvent en bande de copains, de copines, pour jouer dans le square au pied de l'immeuble, ou même au foot, les plus jeunes étant sous la surveillance des plus âgés. Les relations entre les petits et les grands reposent principalement sur le principe du respect des aînés qui sont les plus anciens dans la cité et donc les plus expérimentés. Sans se substituer aux parents, les grands exercent une certaine influence, voire même une emprise sur les petits. Dans la cité, le contrôle social est plus marqué qu'ailleurs car les résidents se connaissent tous et parfois depuis plusieurs générations. Les grands exercent ce contrôle social sur les petits en jouant souvent un rôle de médiateur dans certaines situations conflictuelles. Ils sont d'ailleurs appelés les grands frères et c'est par cette figure fraternelle qu'ils ont souvent plus de facilité que les parents ou les pouvoirs publics à canaliser les petits. L'emprise de certains grands sur certains petits n'est pas toujours positive et peut, dans certains cas de figure, favoriser des actes délictueux dans une logique de service contre service ou donnant-donnant. Certains grands considèrent que les petits leur sont redevables dès lors qu'ils bénéficient de leur protection et en profitent ainsi pour exiger une contrepartie. Hein. C'est parfois le cas dans le milieu du narcotrafic, où les petits se retrouvent souvent enrôlés malgré eux dans la délinquance liée au trafic de stupéfiants sous la pression ou la menace des grands. Mais ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, voilà, les rapports hiérarchiques entre les petits et les grands font partie intégrante de la sociabilisation dans la cité. Et c'est bien là-dessus que l'auteur Michael Chélal voulait insister.
On rappelle le titre et l'éditeur.
Alors, Grandir en cité, la socialisation résidentielle des jeunes de cité, aux éditions Le Bord de l'eau, est paru, donc collection documents, est paru en 2025.
Et c'est bien, Michael Chélal.
Oui, Chélal. Tout à fait. Oui,
voilà, Chélal. Parfait, merci, au revoir.
Dernière partie de notre émission, les romans de la vie. Un autre livre émouvant qui se déroule là dans les prisons au Mexique, je crois. Agnès, tu vas donc nous en parler?
Oui, je vais vous parler du livre qui s'appelle « Mille vies, récits depuis la prison » aux éditions Ici-Bas. La maison d'édition Ici-Bas est une petite maison qui a été créée par une petite équipe anarchiste. C'est intéressant à l'édition, avec un intérêt particulier au départ pour la critique sociale et le graphisme. Le collectif s'est agrandi et a développé d'autres projets, dont celui paru en 2024. Cet essai est le résultat d'un travail de lecture et d'écriture au cœur de prisons mexicaines. 82 prisonniers, hommes comme femmes, y participeront, laissant chacun leur témoignage. Travail réalisé par une équipe dont Antoine D'Agata, Tania Bouorquez, puis Bruno Le Dantec et la participation de l'atelier de Grafica Siquerios, peintre qui fut incarcéré pour avoir soutenu des cheminots et des prisonniers politiques emprisonnés. Les prisonniers inspirés par le travail de cet artiste graphiste se prêteront au jeu et réaliseront leurs propres gravures. Bref, un travail réalisé totalement par les prisonniers. Les prisonniers racontent leur enfance, les événements marquants de leur vie, des événements les plus doux, voire érotiques, et puis des violences, des peurs, la misère, les viols, la précarité de la vie, l'enfance volée, la confiance lapidée. Je cite Le Poinçon, arme et instrument de travail du taulard. La corruption des policiers et des juges qui se plaisent à dénigrer les prisonniers, les matons de la prison, les bandes pour gagner quelque nourriture ou quelque drogue de survie, l'insalubrité, les humiliations, les abus, alors qu'on a déjà tout perdu jusqu'à sa dignité. Et je cite du coup, tu perds l'envie de te lever. Car bien souvent, hommes comme femmes le disent, ils sont là faute à l'alcoolisme de leur père ou mère, la violence familiale sur leur mère ou sur leur sœur, la misère, puis la drogue pour oublier la misère, les chagrins, la fierté, et puis l'accident, la condamnation à la prison. Je cite « Demande-moi et je te dirai, la prison pue la peur, pue la solitude, pue l'amertume, pue la douleur, pue l'abandon, pue la rancune, pue l'incertitude. » Elle pue, la prison. La prison est l'école de la vie, d'où on sort avec un master et une médaille de délinquant. Le chagrin des femmes incarcérées de laisser leur enfant, quelquefois des bébés, l'agressivité, la vulgarité et la violence des gardiennes de prison. L'espoir de tous ces prisonniers pour la visite prochaine, pour la rencontre possible, même entre les murs. L'espoir en la justice des hommes comme de Dieu. Je cite encore, « Je rêve de voir s'ouvrir la porte, de s'en aller vers une nouvelle vie, d'apprendre à apprécier ce que jamais auparavant je n'ai cru si important. » Ce que vous avez entre les mains n'est pas qu'un livre, mais le geste et le cri des oubliés, écrit Tania Bouorquès en postface. Oui, c'est bien en effet mon ressenti. Difficile à lire sans faire quelques pauses. Tellement éprouvant et délicat. Délicatesse jusque dans les toutes premières pages du livre où sont mentionnés tous les noms de ces 82 prisonniers et prisonnières participant à ce projet en 2020 et 2021. Détaillant même jusqu'à leur décès mentionné ou sorti de prison. Le travail de graphisme derrière, inspiré de photographies d'Antoine d'Agata, est d'une grande qualité de travail comme d'impression et est très intéressant. Un beau projet. Je vous rappelle donc le titre de cet essai, « Mille vies, récit depuis la prison » aux éditions Ici-bas.
Pour rester un peu dans la même lignée, nous allons écouter au moins un extrait de « Des portes du pénitencier ». Alors, je vous épargne, Johnny, mais je avec plutôt Hugo Frey.
Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer, et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir as tout perdu, demain tu peux gagner.
Nous allons passer à des moments d'histoire, deux livres. Et pourquoi ne pas présenter des temps forts, douloureux de notre histoire dans des romans? Le message passe souvent plus facilement et avec autant d'intensité qu'un essai. Nous sommes dans la Sarthe, département rural, surtout dans les années 40. La France est occupée. Le gouvernement de Vichy obéit aux ordres, voire les devances. Il en est ainsi du regroupement des nomades dans des camps d'internement. On connaît souvent les regroupements pour les Juifs, malheureusement, Pithiviers, Beaune-la-Rolande notamment. Et Sandrine Fayel nous propose là de découvrir la vie de ces nomades dans le camp de la Verrerie au sein du parc du Château de la Pierre à Coudrecieux dans la Sarthe. Son livre « Les barbelés de la Verrerie », publié aux éditions du Petit Pavé en septembre 2024, est né d'un travail de recherche aux archives départementales, accompagné d'élèves de l'établissement scolaire dans lequel travaille Sandrine. Et lorsqu'elle a interrogé les Sartois, c'est drôle, personne ne pouvait la renseigner. Oh ! Alors, elle a cherché. Et voilà le résultat de ce travail collectif. Tous les personnages sont, j'insiste, sortis de son imagination. Il s'agit de dénoncer un fait historique et non de faire le procès de personnes réelles. Il reste que les descriptions reflètent bien les mentalités de l'époque. Ainsi, dans un coin caché du parc d'un château, on va rassembler des familles. On va les laisser mourir ou tomber gravement malades de 1940 à 1942. En couverture, la porte du parc démontre qu'après-guerre, bon, ma foi, la vie continue. Il suffit de ne pas se rappeler. Les personnages sont très bien campés et leurs attitudes rappellent ceux de la série Un village français, je ne sais pas si vous vous rappelez ce film. Pour renforcer la véracité de ses propos, Sandrine Fayel nous livre des copies des documents administratifs dans toute leur froideur, signés par le préfet avec la mention très urgent, et ce, très urgent, dès le 19 octobre 1940. Hein, on traîne pas, hein. Il faut dire que les voleurs de poules, on ne les apprécie guère dans les campagnes. Le titre, d'ailleurs, d'un des chapitres est éloquent. Un voleur de poules, en moins ? Bon, c'est déjà ça de prix. On les traite comme du bétail. Vous vivrez, au fil des pages, les arrestations, le mépris dans les propos tenus par les forces de l'ordre, le regroupement, la faim, la misère, le froid, moins 20 degrés. Moins 20 degrés sur ces campagnes-là. Rien n'est évidemment prêt. La honte de la France. Sandrine Fayel nous invite à rentrer dans la vie des familles, le refus de l'école, et vous verrez pourquoi. Difficile pour le peuple libre, comme il s'appelle, ces gens du voyage. Et les maladies se déclarent. Parmi les plus terribles, la propagation du typhus, qui n'est pas due à l'hygiène des personnes, mais à des conditions d'internement. Le camp, alors là les Français commencent à s'affoler, hein, les fonctionnaires là commencent à s'affoler. Et le camp fermera en 1942, et les 370 personnes survivantes, qualifiées d'unités, vous voyez, pour bien montrer que c'est le bétail, c'est ce que je disais, sont transférées au camp de Mulsanne, près du Mans. Les surveillants et l'administration bénéficient de promotions, bien sûr, et le directeur conclut, je cite, oh, « nous en sommes plutôt bien sortis ». Sandrine Fayel, Les Barbelés de la Verrerie, aux éditions Le Petit Pavé, 2024. Un livre très intéressant à lire sur une thématique peu connue. Écoutez ces bruits de sabots de Douarnenez. Les Pensardines vont au travail et Agnès veut nous présenter le destin d'une de ces femmes. Mais avant, écoutons un extrait de la chanson Pensardine de Claude Michel, c'est bien ça.
Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les Pensardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les Pensardines.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les Pensardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les Pensardines.
Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines.
Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les Pensardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les
Voilà, nous avions dit un extrait. Bon, on est toujours désolé parce que avec Hélène, on aime bien cette émission, cette chanson. Alors, l'élection interdite, voilà une projection après.
Alors, itinéraire de Joséphine Pancalé, ouvrière bretonne, née en 1886 et décédée en 1972, écrit par Fanny Bunion aux éditions du Seuil. Fanny Bunion est historienne, maîtresse de conférences d'histoire contemporaine et études sur le genre à l'université Rennes 2. Elle est en particulier spécialisée dans l'histoire des femmes et du genre et travaille notamment sur l'engagement des femmes en politique. Dans cet essai, elle nous raconte la vie de Joséphine Pancalé, fille de marin, née en 1886 à Douarnenez, ouvrière d'usine au moment de la révolution industrielle de la conserve de poissons, au milieu d'un grand essor démographique de la population doublé en 30 ans. Il y avait une main-d'œuvre essentiellement féminine dans ces usines à sardines et très nombreuse pour s'occuper de la découpe, de la friture, du séchage et de la mise dans des boîtes métalliques fermées par des ouvriers soudeurs. Elles travaillaient dès l'âge de 12 ans, elles étaient payées aux 1000 sardines et travaillaient parfois jusqu'à 18 heures d'affilée pendant que les hommes, eux, pêchaient. C'est grâce à Maurice Lucas, un étudiant au début des années 1970, qu'elle a été retrouvée. En faisant son mémoire sur les politiques sociales de la ville de Douarnenez entre 1880 et 1925. Sa thèse séduit tant les élus de l'époque qu'ils lui proposèrent de la publier et les habitants de la ville se l'approprièrent. En effet, la ville souhaitait marquer l'intérêt qu'avait eu la ville de Douarnenez dans les luttes sociales. La syndicalisation des ouvrières à une époque où les femmes n'avaient pas de droit de se syndiquer sans l'autorisation de leur époux, mais aussi la victoire des communistes en 1925 et le surnom qu'elle porta ensuite de Ville Rouge. C'est ainsi que Joséphine Pacalet représentera la classe ouvrière de son époque en revenant sur Douarnenez après 15 ans de vie en banlieue parisienne au décès de son mari, avec ses deux enfants à une période difficile de grève et de soulèvement des ouvriers, et où elle s'investit beaucoup en politique. L'auteur nous évoque cette aide versée par l'État pendant la crise des usines pour pallier aux difficultés des ouvriers pour survivre, suite à la fermeture de bon nombre d'usines à cause de la raréfaction de la pêche à la sardine, mais aussi à cause de la mécanisation et de la concurrence étrangère. Nous sommes à une époque où les femmes sont des citoyennes sans citoyenneté, écrit l'auteur. Elles n'ont pas le droit de vote. Mais si elles ne peuvent pas voter, elles pouvaient toutefois être candidates aux élections municipales et faire campagne. Chose qui séduisit Joséphine, qui, veuve, n'avait pas besoin de l'autorisation de quiconque, et pour se syndiquer et pour adhérer au Parti communiste, et pour être candidate aux élections, appuyant ainsi la candidature du candidat Daniel Le Flanchec. Sa candidature s'inscrivait totalement dans la continuité de sa participation au conflit social qui a secoué la cité des peines sardines entre 1924 et 1925. Et le communisme y voit une ouverture pour les femmes à la vie politique et la soutient aux plus hautes instances. Fanny Bugnon nous raconte le chemin parcouru pour faire évoluer ses mentalités dans le monde et le retard de la France à cet égard. D'autre part, si les candidatures ne pouvaient pas être retenues parce qu'illégitimes au regard du ministère de l'Intérieur, néanmoins, leur score était compté et comptabilisé dans le résultat du scrutin. Joséphine fut élue, ainsi que quelques autres femmes. Elle siégea quelque temps au conseil municipal avant que le conseil de préfecture du Finistère demande l'annulation de leur candidature, qu'elles contesteront auprès du Conseil d'État qui finira par valider la décision initiale. Joséphine s'effacera du jour au lendemain du Parti communiste et des syndicats, déçue de n'avoir pas été davantage encouragée. Elle regagnera l'usine en prenant le nom de son mari défunt, assistant ainsi au déclin de toutes les conserveries et encouragera la carrière de son fils et l'éducation de sa petite-fille jusqu'à son décès en 1972. Inscrite sur les listes électorales, elle ne votera pas en 1945 au municipal, marquant ainsi son mécontentement. C'est une biographie très riche que nous propose Fanny Bugnon. Joséphine reste un exemple marquant de courage face aux discriminations. Les luttes pour les droits politiques des femmes. Elle est partie dans l'oubli pour mieux être retrouvée, enfin, à sa place dans l'histoire des femmes ouvrières.
On rappelle le titre,
L'élection interdite, itinéraire de Joséphine Pacalet, ouvrière bretonne, écrit par Fanny Bugnon aux éditions du Seuil.
Eh bien voilà, mes chers amis, des livres, nous en avons présenté encore aujourd'hui. Nous sommes désolés pour le petit incident technique du début, là, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. J'espère que vous avez apprécié notamment l'interview de Roger van Gisbergh. Lisez son livre, lisez le livre, il est vraiment passionnant, les autres aussi, mais celui-là, c'est vraiment un monument, je considère. Je remercie aussi Hélène pour son appui, parce que sinon cette émission n'aurait pas pu se faire. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Encore merci pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouve le mercredi 26 janvier 2025 en direct. Et là, nous aurons l'occasion d'accueillir Ramon Pinault de l'association du 24 août 1944 pour la réédition des carnets du capitaine Drone qui commandait la Nueve, vous savez, cette 9e compagnie composée de républicains espagnols et d'anarchistes, la première à rentrer dans Paris le 24 août 1944. D'ici là, bonne lecture, je pense que ça devrait aller. L'équipe d'Au fil des pages sur Radio Libertaire vous souhaite ni Dieu ni maître, un bel idéal de vie. À bientôt et au plaisir de partager.
Non, il n'a pas entendu. Je me suis dit... Bon, eh ben écoute...
Il est la trouvé une nouvelle technique.
Bon, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter.
Écoute, au contraire.
C'était très bien. En tout cas, merci beaucoup.
Merci.
Allez, bon courage.
À une prochaine.